VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 26 juin 2018, des experts de l'ONU accusent les milices et les forces de sécurité congolaises de crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Kasaï. Au Cameroun, 47 séparatistes anglophones ont pu rencontrer leurs avocats après 6 mois de détention. L'ONU demande au Gabon de libérer l'ex-ministre du pétrole Étienne Ngoubou, incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. Une cour d'appel au Soudan a annulé la peine de mort contre Noura Hussein, condamnée pour avoir tué son mari après un mariage forcé à l'âge de 16 ans. Et le Mondial 2018, les matchs du groupe D, Nigeria-Argentine, un partout, et la Croatie mène actuellement contre l'Islande par 1-0. Des experts de l'ONU ayant enquêté sur les atrocités commises depuis 2016 au Kasaï en RDC ont accusé les forces de sécurité et les milices de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est urgent de mettre en place une politique de désarmement des milices et un processus de réconciliation afin d'éviter une nouvelle vague de violence, ont-ils recommandé, tout en déplorant un très sérieux problème d'impunité. Des milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition pendant la saison sèche au Kasaï en RDC. Se sont alarmés les évêques congolais, appelant à une intervention rapide et massive. Si les enfants ne sont pas assistés maintenant, on risque d'avoir des morts par milliers, a déclaré l'archevêque de Kananga, Marcel Madila. Le procès de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi doit s'ouvrir demain à Kinshasa devant la Cour suprême. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le point avec Idriss Fall.
Moïse Katumbi et ses 6 co-accusés, dont un Américain, sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. D'après son avocat, Maître Mumba Gama, le procès doit commencer demain devant la Cour suprême. Ex-gouverneur du Katanga, en exil depuis mai 2016, M. Katumbi a été accusé d'avoir recruté et armé des mercenaires après son divorce politique avec la majorité présidentielle. Ce procès ne sera qu'une honte pour la plus haute autorité de l'État, écrivent 50 députés et sénateurs pro-Katumbi dans une lettre au président Kabila. Déjà condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière, M. Katumbi ne peut revenir en RDC sans être inquiété par la justice, a dit récemment le ministre des Affaires étrangères. M. Katumbi a pour la énième fois annoncé son retour, cette fois-ci entre le 24 juillet et le 8 août, les dates du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle.
Après 6 mois de détention, 47 séparatistes anglophones ont pu rencontrer des avocats commis pour leur défense. Les précisions avec notre correspondant Emmanuel Jules Knapp.
Deux avocats du cabinet Mouna et associés ont pu établir un premier contact avec les 47 personnes extradées du Nigeria depuis le 26 janvier dernier. VOA Afrique a appris ce mardi que c'est dans l'enceinte du secrétariat d'État à la Défense, un site hautement sécurisé à Yaoundé, que les avocats ont été autorisés à rencontrer les leaders sécessionnistes. De sources judiciaires, ce premier contact annonce l'ouverture d'un procès au tribunal militaire de Yaoundé qui juge les accusations de terrorisme. Cependant, certains leaders sécessionnistes pourraient bénéficier d'un non-lieu dès la fin de l'information judiciaire, a confié sous anonymat un avocat à VOA Afrique. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
L'ONU demande au Gabon de libérer immédiatement l'ex-ministre du pétrole Étienne Ngoubou, incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. Sa privation de liberté est arbitraire, estime le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme. Monsieur Ngoubou est en détention préventive pour détournement de fonds publics dans le cadre de l'opération Mamba qui a abouti à l'incarcération de plusieurs hauts responsables soupçonnés de corruption. Une cour d'appel a annulé la sentence de mort contre la jeune soudanaise de 19 ans, Noura Hussein, condamnée pour avoir tué son mari qu'il avait violé et que son père l'avait forcé à épouser alors qu'elle n'avait que 16 ans. Son avocat avait interjeté appel de cette décision qui avait déclenché l'indignation internationale. La cour d'appel a ainsi condamné Noura à 5 ans de prison et une amende de 12 000 $. Poursuite des discussions à Khartoum entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar. Les détails avec Raïssa Girondin.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar sont parvenus à un accord sur certains points dans les pourparlers de paix. Il a déclaré que ces points seront annoncés demain. L'agence Reuters rapporte que Riek Machar a demandé 48 heures supplémentaires avant de signer tout projet d'accord. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
Une délégation gouvernementale érythréenne est actuellement à Addis Abeba pour une visite historique destinée à mettre fin à des décennies d'hostilité entre les deux voisins. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Osman Saleh et Yemane Gebreab, conseiller spécial du président éthiopien Isaias Afewerki, ont été accueillis par le premier ministre Abiy Ahmed et des responsabilités comme le légendaire coureur Haïlé Gebrselassie. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés à une guerre qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000 en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. Le refus éthiopien d'appliquer une décision d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a entretenu l'animosité entre les deux pays. En juin 2016, suite à un accrochage entre les deux armées, les Érythréens ont affirmé avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens. L'Éthiopie avait alors rappelé à son voisin qu'elle avait la capacité de mener une guerre totale. La décision de M. Abiy de tourner la page de ce conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Cependant, elle a été accueillie avec une défiance par les habitants de la ville symbole de Badme, accordée à l'Érythrée en 2002. L'Éthiopie n'a pas indiqué quand ses troupes quitteront cette localité, dont les habitants craignent de se retrouver sous la coupe de leur ancien ennemi.
Le gouvernement libyen d'Union nationale a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à bloquer toute tentative de vente illégale de pétrole par les autorités rivales de l'est du pays. Lundi, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé que toutes les installations sous contrôle de ses forces seraient remises à la compagnie pétrolière du gouvernement parallèle basée dans l'est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un cargo danois transportant 108 migrants secourus vendredi au large de la Libye a été autorisé à accoster en Sicile, mais l'incertitude régnait toujours sur le sort de 234 autres migrants à bord du Lifeline. Affrété par l'ONG allemande du même nom, ce navire reste bloqué en mer, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini ayant confirmé lundi sa ligne dure à l'encontre des ONG venant en aide aux migrants. La Cour suprême des États-Unis a validé le décret anti-immigration de Donald Trump, offrant une victoire définitive au président américain à l'issue d'une âpre bataille judiciaire autour de cette mesure controversée. La décision prise à la majorité de 5 juges contre 4 entérine ce décret qui interdit le territoire américain de façon permanente aux ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Et l'armée syrienne a lancé une offensive contre les secteurs rebelles de Deraa, selon l'agence Sana, alors que le pouvoir de Bachar al-Assad est déterminé à reconquérir les territoires insurgés du sud du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté de son côté des raids aériens du pouvoir et de son allié russe contre les quartiers rebelles. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, le Mondial 2018 en Russie avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Scénario à suspense ce soir dans le groupe D. Les Croates, leaders du groupe, déjà qualifiés, font match nul un but partout contre l'Islande. Mais surtout, Nigeria-Argentine qui a débuté depuis 18h temps universel. Lionel Messi avait ouvert le score en première mi-temps à la 14e minute. Mais en seconde mi-temps, Moses a inscrit le but de l'égalisation sur pénalty. Pour le moment, un but partout entre les deux équipes. Il reste 10 minutes de jeu, un score qui élimine l'Argentine et surtout qui qualifie les Nigérians qui affronteraient donc la France en huitième de finale. La France, dans un match ennuyeux, a fait match nul 0-0 contre le Danemark. Défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. La Croatie affronterait donc le Danemark en huitième de finale. Match à suspense hier soir aussi. Dans le groupe B, il a beaucoup été question d'assistance vidéo à l'arbitrage. Le Maroc a réalisé son meilleur match et aurait mérité mieux qu'un match nul de but partout face à l'Espagne. À Kaliningrad, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont ouvert le score sur une grosse erreur de la défense espagnole qui permet à Khalid Boutaïb d'inscrire le premier but. Puis Isco égalise dans la foulée sur un magnifique service d'Iniesta. Au retour des vestiaires, l'Espagne domine, mais ce sont bien les Marocains qui prennent le devant grâce à un but sur corner d'En-Nesyri. Hélas, le Maroc qui ne parvient pas à garder cet avantage et c'est Aspas qui remet les deux équipes à égalité. On va écouter Mehdi Benatia, le joueur marocain qui s'est exprimé après la rencontre.
Comme le reste de la Coupe du Monde, on a vu une grande équipe, on a vu un grand pays, on a vu beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit au début, les Marocains peuvent être fiers de cette équipe. Nous, en tout cas, on est fiers de nos fans, de nos supporters. Ils étaient encore une fois, on était à domicile ici. Mais voilà, j'ai pas envie de faire trop de polémiques. On n'a pas envie de. C'est une belle compétition, il faut la respecter. Malheureusement, je pense que notre pays n'a pas été respecté à sa juste valeur durant cette compétition. Et c'est un peu frustrant. Après, l'équipe d'Espagne, elle a des grands champions. On leur souhaite le meilleur, mais ça a été pareil un peu durant toute la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on mérite mieux et qu'on n'a pas été très juste avec nous, surtout contre le Portugal. Mais c'est comme ça, il faut positiver et on leur souhaite bonne chance aux équipes qui restent. Et nous maintenant, il va falloir rester sur la continuité avec ce groupe de qualité, avec un très grand entraîneur, un très très grand entraîneur comme Hervé Renard qui a su depuis le début nous faire qu'on se transcende pour lui. Et chaque joueur aujourd'hui était content de jouer pour lui. C'est vraiment l'homme fort. Donc voilà, c'est lui aussi qu'il faut remercier et puis voilà.
Voilà, Mehdi Benatia, le joueur marocain. L'Espagne termine première du groupe après le match nul un peu partout du Portugal face à l'Iran. Là aussi, il a beaucoup été question de vidéo. Cristiano Ronaldo a raté un pénalty, mais score final un but partout entre les deux équipes. À suivre demain dans le groupe E, le Brésil de Neymar et Coutinho face à la Serbie pour une finale à suspense. La Suisse, bien placée pour se qualifier en cas de victoire face au Costa Rica, déjà éliminé. Dans le groupe F, le Mexique a besoin d'un nul contre la Suède pour terminer premier du groupe. Les Suédois doivent impérativement l'emporter. Quant aux champions du monde allemand, ils affrontent la Corée du Sud pour éviter une élimination historique. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Qui ne se souvient de la célèbre boutade de Gary Lineker, le buteur anglais des années 80-90? Le football est un sport qui se joue en 11 et où l'Allemagne finit toujours par gagner. En fait, la vedette britannique rendait hommage à justice à l'opiniâtreté, à la force mentale d'une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Cette boutade, une nouvelle fois prémonitoire, a repris tout son relief au lendemain de la victoire miraculeuse de l'Allemagne dans le match de la survie samedi contre la Suède. Et quand l'Allemagne gagne sur le fil, généralement elle monte en puissance et réajuste le tir. Or, les Allemands savent maintenant que seule une victoire de 2 buts d'écart peut garantir à l'absolu une qualification. La possibilité de se retrouver avec 3 équipes à 6 points n'étant pas à écarter, au cas où la Suède venait à gagner contre le Mexique. Pour toutes ces raisons, le 3e match contre la Corée sera donc pris très au sérieux par une équipe jamais aussi efficace et concentrée que lorsque l'objectif est aussi clair. Pourtant, ce match Allemagne-Corée du Sud ressemble à s'y méprendre au match piège tant redouté. Tout d'abord, dans une opposition de style parfaite, les Asiatiques ont à démontrer leur vivacité habituelle et leur tendance à bien finir les rencontres. Par ailleurs, l'axe défensif allemand, la véritable rampe de lancement de ses orientations offensives, vient de perdre son patron Boateng, suspendu après l'absence ou blessure de son acolyte Hummels, si utile aussi dans le jeu aérien. Et si l'histoire de David et de Goliath se répétait une fois de plus, réponse ce mercredi au magnifique stade de Kazan. À bientôt.
Voilà, merci Jules. On va rappeler, le score. Hein, le Nigeria qui tient en échec l'Argentine, un but partout. Pour le moment, ce sont les Nigérians qui sont qualifiés.
Merci beaucoup Nicolas pour ce résumé du Mondial 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Tchad, le procès de l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Charfadine, et quatre de ses co-détenus a débuté ce matin à N'Djamena. Le palais de justice de la capitale était sous haute surveillance policière. Le point avec notre correspondant, André Kodmajingar.
L'ouverture de ce procès offre déjà un spectacle inhabituel dans les locaux du palais de justice de N'Djamena ce vendredi. Au lieu de la fourgonnette, c'est plutôt une ambulance médicalisée qui fait son entrée au palais de justice aux environs de 9h20, heure locale, suivie d'une voiture de marque V8 aux vitres fumées escortée par les gendarmes. À la surprise de tous, ce ne sont pas les malades qui se trouvent dans l'ambulance, mais plutôt les quatre prévenus qui descendent du véhicule et se dirigent vers la salle d'audience. 10 minutes plus tard, le célèbre prévenu Adam Nuki Charfadine descend de sa voiture V8 privée, tout souriant, salue avec mépris le public et les avocats plaidant dans cette affaire et suit ses co-détenus à pas feutrés, poursuivis pour destruction des biens, rébellion, détention arbitraire, outrage aux magistrats et atteinte à la liberté, tous les 5 prévenus ont plaidé non coupables. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile et ceux de la défense ont soulevé plusieurs exceptions pour dénoncer l'incompétence du tribunal allant des vices de procédure à la requalification des faits. Acculé, le président du tribunal suspend l'audience pour 2 heures. À la reprise, il rejette finalement ces exceptions et ordonne la poursuite du dossier. L'avocat des prévenus, maître Olivier Guara, se réjouit de la décision du tribunal.
Nous avons estimé que le tribunal n'était pas compétent parce que les faits en question se sont déroulés à Doba. Malgré l'arrêt de dessaisissement de la Cour suprême, nous avons estimé tout simplement que la Cour suprême avait saisi la Cour d'appel de N'Djamena. Donc, si c'est mentionné que c'est la Cour d'appel qui doit connaître l'appel, nous étions un peu surpris de voir que c'est plutôt le tribunal. Donc, souverainement, les juges ont estimé tout simplement que notre réception n'était pas recevable. Tant mieux, nous allons aller au fond du dossier.
Maître Alain Kagome, l'un des avocats de la partie civile, se dit déçu de la décision du tribunal de prendre le dossier.
J'ai l'impression que le dossier est en train d'être traité avec beaucoup de légèreté parce que le fait de tirer en direction d'une personne, ce n'est pas des fleurs qu'on a jetées, c'est des balles dont le contact avec un homme est mortel. Et puis la séquestration suivie d'enlèvement parce que des gens qui ont été libérés et des hommes sont venus en armes les enlever, ce n'est pas correctionnel. Dans cette affaire, elle ne peut pas être connue par le tribunal correctionnel. C'est un dossier d'instruction. On doit prendre tout le temps nécessaire pour instruire le dossier. Le compagène de Mbaye Boukoum qui est parti les arrêter, qui a pris 45 bœufs avec eux, qui a pris 2 motos, lui aussi pour extorsion de biens, il n'est pas dans le tas.
Le président du tribunal ordonne le maintien en détention des prévenus à la maison d'arrêt et renvoie le dossier au mardi 26 juin prochain pour les plaidoiries du fond. Abandré Dieudonné N'Djamena, Radio Omega.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Algérie a expulsé plus de 10 000 migrants africains depuis le début de l'année. Certains sont abandonnés dans le désert près de la frontière avec le Niger. Idriss Fall fait le point avec Giuseppe Lopresti, le représentant de l'OIM au Niger.
L'OIM au Niger a remarqué une augmentation sur la route de l'Algérie, venant de l'Algérie mais aussi vers l'Algérie, des migrants en transit. Donc depuis septembre 2017, environ 10 000 personnes de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été retrouvées dans le désert, sauvées par des missions de sauvetage de l'OIM avec le gouvernement du Niger. Tout le monde est arrivé en conditions très difficiles parce qu'ils ont marché dans le désert déhydratés et en conditions psychologiques très préoccupantes.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est parce qu'ils ont été expulsés par l'Algérie ou bien ils se sont perdus eux-mêmes dans le désert?
Il y a 3 différentes situations. Le cas plus fréquent, ce sont les migrants qui ont été abandonnés dans le désert par les autorités algériennes. C'est ça l'histoire que la majorité des migrants nous ont racontée. Ils étaient dans les chantiers en Algérie ou bien dans les différentes villes d'Algérie. Et à un moment donné, ils ont été transportés vers la frontière du Niger et déposés à environ 10-15 kilomètres de la frontière. Et après, ils ont marché vers le Niger. La deuxième situation, ce sont des migrants qui étaient en transit vers l'Algérie et qui ont été stoppés juste après la frontière. Et il y a un troisième cas, des migrants qui étaient même en Libye et qui sont rentrés au Niger à travers l'Algérie, ont payé des transporteurs pour rentrer au Niger vu l'impossibilité de traverser la Méditerranée et de rester soit en Algérie ou dans les autres pays.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là qui sont ramenées au Niger?
Depuis le début de l'année, l'OIM a facilité des retours volontaires d'environ 9300 personnes. Donc, sont rentrés déjà dans leur pays d'origine. On a bien travaillé avec les services consulaires de toutes les ambassades. Ce sont des projets qui sont financés par les fonds fiduciaires de l'Union européenne et certains pays membres de l'Union européenne aussi. Et il y a encore environ 1000 migrants qui sont avec nous à ce moment. Dans les différents centres de l'OIM au Niger, il y a 6, donc 3 dans la région d'Agadez et 3 à Niamey. Pour les migrants qui sont avec nous en ce moment, on est en train de suivre toute la procédure pour faciliter le retour sur base volontaire. Mais il y a aussi des cas de protection qui doivent rester un peu plus ici au Niger. Victimes de traite, mineurs non accompagnés et migrants qui sont malades ou qui ne sont pas en condition de voyager à ce moment.
C'était Giuseppe Lopresti, le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola, qui s'est déclarée le 8 mai dernier, est en phase de stabilisation selon les autorités. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces derniers jours. Le point avec notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lyndon.
Pour le gouvernement congolais, la situation semble se stabiliser quant à l'épidémie d'Ebola. En effet, aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 2 semaines, selon le titulaire de la santé à Kinshasa.
Le 6 juin, nous n'avons pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc ça, c'est une situation qui est très bonne. Et alors, par ailleurs, en fait, nous avons eu au total 38 cas confirmés. 18 décès probables. Nous avons eu 28 décès au total et parmi ces décès, donc nous avons eu 14 décès parmi les cas confirmés.
Ces résultats sont le fruit des efforts consentis à la fois par les autorités de Kinshasa et les partenaires internationaux. Ils sont aussi le fait de l'introduction dans la lutte contre l'épidémie d'un vaccin expérimental dont le rôle s'est avéré crucial.
Le vaccin nous a permis en fait de casser très rapidement la chaîne de transmission, surtout en vaccinant les contacts et les contacts des contacts, nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission.
Malgré ces résultats, des questions demeurent sur ce vaccin, notamment sur ses possibles effets secondaires. Toutefois, les autorités rassurent.
Nous n'avons pas observé d'énormes effets secondaires majeurs par rapport à ce vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné et donc je n'ai pas eu d'effets secondaires majeurs.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola en RDC. Le pays semble avoir acquis une expérience aujourd'hui reconnue dans la gestion de telles épidémies.
L'élément le plus important, c'est d'avoir un nombre limité d'agents sur le terrain qui agissent, qui collaborent sous le leadership du gouvernement. C'est vraiment l'élément le plus important parce que lorsqu'on a beaucoup d'agences sur le terrain et qu'il n'y a pas de coordination, il y a vraiment le risque d'avoir un chaos sur le terrain.
Pour le moment, le chaos semble avoir été évité, en particulier ici à Kinshasa, où beaucoup craignaient qu'Ebola n'arrive et se propage. John Lyndon, VOA Afrique, Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique.
appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
What you want is to be free. Tear down the walls that make you scream. Break the box that holds you in. Wake up this life you're living in. That's what my mama said to me. She said, the next 5 years will pass you by.
Terminant musique pour cette édition, à la mise en onde, c'était Joselle Morissin, la présentation Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt, au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.